Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 26 juin 2015.
Le deuxième vice-président burundais multiplie les appels pour convaincre Pierre Nkurunziza de ne pas briguer un troisième mandat et l'accuse d'isoler le pays au plan économique.
Quel est l'intérêt de chercher à tout prix d'être président lorsque tu n'auras pas de quoi nourrir ton peuple?
Gervais Roufikiri, qui a fait défection en Belgique.
L'éducation nationale gabonaise à nouveau dans la tourmente. Les écoles sont en grève et toute la fonction publique menace de débrayer lundi.
On ne peut pas mettre en place un nouveau système de rémunération sans discussion préalable avec les partenaires sociaux.
Jean-Rémy Hama, modérateur de la dynamique unitaire.
À l'approche de la conférence internationale sur le réchauffement climatique, les cris d'alarme sur le rôle fondamental de l'eau se multiplient.
En 2005, il pleuvait à peu près 3 mois de l'année. Et là, il ne pleut même pas 1 mois de l'année. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que ces personnes n'ont plus d'eau.
Ariane Kirtley, directrice d'Aman Iman au Niger.
2014 a été très dur, marqué par la souffrance de beaucoup trop de personnes dans le monde. Tel est le constat du rapport annuel du département d'État américain sur les droits humains.
Et avant la Minute Éco et les sports, les informations.
En Côte d'Ivoire, 19 ONG ont appelé le président Alassane Ouattara à maintenir ouvertes les enquêtes relatives à la crise post-électorale de 2010-2011, estimant que les juges doivent aller jusqu'au bout de leurs investigations. Michel Joseph.
Dans une lettre ouverte adressée au président Ouattara, ces ONG, notamment la Fédération internationale des droits de l'homme et Human Rights Watch, expriment leur vive préoccupation quant aux informations concordantes, faisant état de la clôture imminente des enquêtes judiciaires en cours. Elles disent redouter une clôture prématurée de ces instructions, qui aurait pour conséquence certains des procès mal préparés et des accusations insuffisamment étayées ne permettraient pas de rendre justice aux victimes. D'après un communiqué de presse des ONG, le gouvernement ivoirien a demandé à la cellule spéciale chargée des enquêtes de terminer rapidement son travail d'ici le 30 juin 2015. Pour ces organisations, il ne faudrait pas que des considérations politiques, notamment électorales, dictent la cadence judiciaire au détriment des victimes qui ne pourraient se satisfaire de procès précipités. Une allusion à la présidentielle prévue en octobre. La crise ivoirienne de 2010 à 2011 a fait plus de 3000 morts. Parmi les personnes jugées en rapport avec ces violences, l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui a été condamnée à 20 ans de prison en mars.
Les médiateurs du dialogue burundais ont proposé de reporter les élections législatives, communales et présidentielles au 31 juillet, selon des sources de l'AFP. Des législatives et communales couplées sont prévues lundi et le premier tour de la présidentielle le 15 juillet. La communauté internationale estime que le climat actuel au Burundi ne permet pas des élections crédibles. Le représentant du gouvernement, revenu mercredi à la table des négociations après avoir boycotté les discussions la veille en présence du médiateur de l'ONU, Abdoulaye Batili, était à nouveau absent jeudi. Le camp présidentiel refuse de repousser à nouveau les scrutins, arguant qu'il y a un délai à respecter pour éviter un vide institutionnel.
Près de 3 ans après la tuerie des mineurs de Marikana en Afrique du Sud, la police est finalement dans le collimateur des enquêteurs. Quant à l'entreprise britannique Lonmin, il lui est reproché de ne pas avoir fait le nécessaire pour résoudre le conflit social ayant débouché sur les incidents du 16 août 2012, qualifiés de massacre. Lionel Gaïma nous en dit plus.
C'est le président sud-africain Jacob Zuma lui-même qui a donné lecture à la télévision d'un résumé du rapport de la commission d'enquête judiciaire. Selon ce rapport, il faudra qu'une enquête exhaustive soit menée sous la direction du parquet afin de fixer la responsabilité des policiers présents le jour du massacre. On s'en souvient, un mouvement de grève dans la mine de platine de Marikana, exploitée par Lonmin, avait donné lieu à des affrontements entre syndicats rivaux provoquant la mort à l'arme blanche d'au moins 10 personnes. C'était au début du mois d'août 2012. Environ 2 semaines plus tard, les grévistes se sont retrouvés face à la police. Cette fois, 34 personnes ont trouvé la mort, dont 17 pendant que les policiers pourchassaient les mineurs, tirant même sur certains dans le dos, toujours selon le rapport de la commission d'enquête. Elle estime que l'opération policière était mal conçue et mal exécutée. Le rapport propose par conséquent des programmes de formation pour la police sud-africaine afin d'éviter une telle tragédie dans le futur.
En Gambie, l'opposition a accusé le président Yahya Jammeh de chercher à évincer ses rivaux à la prochaine présidentielle en augmentant démesurément le prix des droits d'inscription de candidature, rapporte l'AFP. Le gouvernement a annoncé un projet de loi portant le droit d'inscription à 1 million de dalassi, soit près de 26 000 dollars. Les droits pour les élections législatives et municipales devraient également être revus à la hausse. Les amendements proposés visent à saborder la croissance d'une démocratie multipartite en Gambie, a dénoncé Ousseynou Darbo, secrétaire général du Parti démocratique uni.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le département d'État américain a publié son rapport annuel global sur les droits humains. 2014 a été une année très dure, marquée par la souffrance et les abus pour beaucoup trop de personnes dans le monde, indique le rapport. Idrissa Seydoudia.
Le secrétaire d'État américain John Kerry attribue cette situation à des groupes terroristes qui exploitent les divisions et le discours religieux pour promouvoir leur idéologie totalitaire ou à des gouvernements qui, comme la Syrie, disent souvent combattre le terrorisme. Malgré tout, les aspirations à la liberté politique et à une gouvernance honnête et respectueuse des droits restent fortes. À travers le monde, beaucoup de peuples ont pu choisir, plus qu'auparavant, leurs dirigeants dans des élections où il y a eu réelle concurrence. Dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient, les terroristes n'ont non seulement aucune considération pour les droits de l'homme, mais ils ont eu zéro considération pour la vie humaine, a encore dit M. Kerry. Il avait remarqué que des groupes comme l'État islamique ont brûlé vifs des gens, décapité de manière barbare des prisonniers, vendu des filles en esclavage et exécuté aveuglément de nombreux innocents. Le monde a été témoin, a-t-il poursuivi, de la brutalité et du nihilisme des attaques horribles des talibans pakistanais et de Boko Haram contre des écoliers, de l'assassinat de journalistes de Charlie Hebdo et de nombreuses tueries perpétrées par le groupe État islamique. Les gouvernements chinois, égyptiens, érythréens, éthiopiens, iraniens, russes et saoudiens, entre autres, continuent à museler les médias libres et à restreindre le développement de la société civile en emprisonnant des journalistes, blogueurs et critiques non violents, a déploré le secrétaire d'État américain.
Les djihadistes du groupe État islamique ont lancé deux attaques majeures dans le nord de la Syrie jeudi. Une offensive sur la ville frontière kurde de Kobani et une avancée dans les zones gouvernementales de la ville d'Asaka. Un politicien kurde syrien, Gelo Issa, a déclaré à la Voix de l'Amérique que les salafistes ont commis plusieurs attentats suicides à Kobani et dans ses environs, tuant au moins 23 civils. Selon lui, des combattants sont entrés à Kobani à partir de la Turquie et ont tué des civils au hasard qui sont sortis pour voir ce qui se passait. Il a dit qu'il portait des uniformes militaires kurdes et des drapeaux de l'armée syrienne libre dans le but de tromper les gardes de sécurité.
Le président russe Vladimir Poutine a appelé jeudi par téléphone son homologue américain Barack Obama pour discuter des tensions persistantes dans l'est de l'Ukraine et de divers sujets de préoccupation au Moyen-Orient. Monsieur Obama lui a dit de retirer toutes les troupes et les équipements du territoire ukrainien, a indiqué la Maison-Blanche. Monsieur Poutine a toujours nié soutenir les rebelles pro-russes en Ukraine. Les deux dirigeants ont également discuté du conflit en Syrie et ont convenu de l'importance de l'unité entre les 6 puissances mondiales qui négocient pour restreindre les capacités nucléaires de l'Iran.
Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Malki, a présenté hier à la CPI des documents alléguant qu'Israël et son armée ont violé le droit international et commis des crimes de guerre pendant le conflit de 50 jours à Gaza l'an dernier. 3 jours auparavant, les enquêteurs des Nations Unies avaient déclaré que de graves violations du droit humanitaire pouvant constituer des crimes de guerre ont été commises par Israël et les groupes militants palestiniens. Plus de 2200 Palestiniens, la plupart des civils, ont été tués dans l'offensive d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. En Israël, 67 soldats et 6 civils ont été tués.
Le directeur du renseignement national américain James Clapper a déclaré jeudi que la Chine est le principal suspect dans l'enquête sur le piratage massif des données d'employés fédéraux. Vous pouvez saluer les Chinois pour ce qu'ils ont fait, a déclaré M. Clapper lors d'une conférence à Washington, se référant à la difficulté de l'opération. Ses commentaires ont été confirmés par son bureau qui a souligné que le gouvernement américain continuait d'enquêter sur le piratage informatique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco vous est présentée par Bagassi Koura.
La Banque mondiale a annoncé avoir débloqué 100 millions de dollars pour réduire les coûts de transport entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Les deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest ont des économies imbriquées. Selon l'AFP, citant un communiqué de la banque, chacun des deux pays recevra 50 millions de dollars afin d'engager une série de réformes dans le transport routier, les ports et les points d'entrée terrestres. La Côte d'Ivoire a pris le contrôle de trois opérateurs de téléphonie. Il s'agit de Mobile Green, Comium et Café Mobile, arguant que ces derniers devaient à l'état des taxes et des droits de licence. Selon Reuters, le pays envisage de les fusionner en une seule compagnie avant de chercher un partenaire pour prendre une participation majoritaire. C'est demain que les autorités comptent chasser les vendeurs ambulants des rues de la capitale zimbabwéenne, Harare. Le pays compte plus de 5 millions de vendeurs ambulants et la majeure partie se trouve dans la capitale Harare. Mercredi, ils ont organisé des marches de protestation contre leur éviction. On écoute la députée de l'opposition, Tabitha Kumalo, qui était parmi les manifestants.
Ce que nous voyons au Zimbabwe ici, c'est que le gouvernement du ZANU-PF a promis 2,2 millions de boulots et il n'y a rien. Qu'ils amènent ces 2,2 millions d'emplois.
Les taxis français en guerre contre la concurrence sauvage du groupe américain Uber ont manifesté par milliers leur colère dans un climat explosif ce jeudi.
Merci Bagassi pour la Minute Éco. À présent, les sports présentés par Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Alors on commence par la Coupe du Monde féminine de football avec les premiers quarts de finale ce vendredi.
Un choc 100% européen entre l'Allemagne et la France. Dans l'autre rencontre de la journée, les Américaines feront face aux Chinoises. Et samedi, les deux autres quarts de finale, Australie-Japon et Angleterre-Canada, le pays organisateur.
Copa América également un quart de finale la nuit prochaine.
À suivre dans la nuit de vendredi à samedi, le choc Argentine-Colombie en quart de finale avec Lionel Messi d'un côté et James Rodriguez de l'autre. Hier, on a appris que l'arbitre brésilien de la rencontre Uruguay-Chili n'arbitrerait plus jusqu'à la fin du tournoi. Il faut dire que ce match avait été explosif. La Céleste, tenante du titre, est privée de son buteur vedette, Luis Suarez, a été battue par le pays organisateur, le Chili. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. À Santiago, La Roja s'est imposé 1-0 grâce à un but inscrit à la 81e minute par Mauricio Isla, qui a ainsi concrétisé la nette domination de son équipe durant toute la rencontre. A noter que les Uruguayens ont fini ce match à 9 après deux expulsions. Le Chili s'est qualifié pour les demi-finales, on le rappelle.
On parle un peu transfert.
Andrea Pirlo de la Juventus de Turin devrait s'engager en août prochain avec le New York City FC en Ligue nord-américaine de football. Pirlo, selon le quotidien La Gazzetta dello Sport, se voit offrir un contrat de 18 mois avec la possibilité d'une option pour une année supplémentaire. On rappelle son palmarès, champion du monde en 2006, vainqueur de la Ligue des champions en 2003 et 2007 sous le maillot du Milan AC. Andrea Pirlo a aussi remporté le doublé championnat Coupe d'Italie avec la Juve cette saison. Et un nouveau défi pour Mohamed Sissoko. À la peine depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a deux ans, le milieu de terrain malien a décidé de quitter Levante et a signé en Chine au Shanghai Shenhua. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée.
Usain Bolt déclare forfait pour les championnats de la Jamaïque qui débutaient jeudi à Kingston.
La star du sprint mondial a finalement décidé de ne pas participer à cette compétition. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer ce forfait. Le sextuple champion olympique et octuple champion du monde n'est pas encore passé cette année sous le seuil des 10 secondes sur 100 mètres et des 20 secondes sur 200 mètres.
Et pour terminer, basketball nord-américain, la NBA, la saison s'est achevée par la victoire de Golden State et le grand rituel de la draft qui a eu lieu la nuit dernière.
Ouais, le nouveau LeBron James s'appelle-t-il Karl Anthony Towns ou Jahlil Okafor est-il le futur Shaquille O'Neal? En tout cas, les équipes NBA ont recruté cette nuit les meilleurs espoirs américains et étrangers lors de la draft 2015 dans l'espoir de décrocher le gros lot. Appelé par le commissioner Adam Silver, le grand patron de la NBA, 60 joueurs âgés de 19 à 23 ans espèrent faire carrière dans le championnat le plus relevé au monde en basket. Après une seule saison dans le championnat universitaire, Karl Anthony Towns et Jahlil Okafor sont les deux attractions de cette draft 2015.
Merci beaucoup Nicolas pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Après sa lettre au président, le deuxième vice-président burundais continue d'appeler Pierre Nkurunziza à ne pas briguer un troisième mandat. Gervais Rufikiri, qui est aussi membre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a fait défection en Belgique, disant qu'il ne pouvait plus continuer de soutenir l'attitude du chef de l'État burundais. Timothée Donangma, il a joint à Bruxelles.
Il suffit de lire l'article 96 et de le combiner avec l'article 302. On se rend compte qu'effectivement, la Constitution limite le nombre de mandats à deux. Et c'est une interprétation qui a même été faite par des experts juristes constitutionnalistes, tels que le professeur Philippe Ringer, mais aussi les procureurs généraux de la communauté africaine. Ils se sont exprimés là-dessus et parlent justement que la Constitution à elle seule suffit pour montrer que le nombre de mandats ne peut pas dépasser deux.
Qu'est-ce que votre départ changera au Burundi selon vous?
Bon, écoutez, je crois que c'est une contribution par rapport aux nombreux Burundais qui sont en train de se battre pour protéger la Constitution burundaise, pour respect de la Constitution burundaise.
Au niveau du gouvernement, on a rejeté toute idée de reporter les législatives qui se tiennent dans quelques jours. Qu'est-ce que cela aura comme conséquence selon vous?
Bon, les conséquences sont très lourdes. D'abord, pour le moment, vous vous rendez compte avec le nombre de réfugiés dans les pays voisins, mais aussi plus loin dans d'autres pays. Et avec des décès dans ces camps d'accueil des réfugiés, puisque les conditions ne sont pas optimales pour la vie. Les morts qu'on a revues chaque jour au Burundi, soit lors des manifestations, mais maintenant, ça a pris une autre forme avec les grenades qui sont lancées, soit sur des ménages ou dans des attroupements de personnes. Ça, ce sont quelques signes de dégâts, sans oublier bien sûr l'isolement du Burundi par rapport à ses partenaires techniques et financiers. Et on peut se demander la question, comment sera l'économie burundaise sans apport extérieur lorsqu'on sait que l'économie burundaise est à plus de 52% dans des conditions normales des apports extérieurs et que les recettes collectées par l'Office burundais des recettes sont en train de chuter. On peut se demander quel est l'intérêt de chercher à tout prix d'être président lorsque tu n'auras pas de quoi nourrir ton peuple. Ça, c'est la première question que n'importe qui devait se poser. Donc, pour le moment, l'urgence, normalement, n'est pas de fuir derrière son poste présidentiel, c'est plutôt de stabiliser davantage le pays et créer de bonnes conditions pour tenir des élections conformes à la démocratie, donc des élections libres, transparentes, inclusives et qui se passent dans un climat de paix et de sécurité pour tous.
Le deuxième vice-président burundais, Gervais Rufikiri, était joint à Bruxelles. L'éducation nationale au Gabon est à nouveau dans la tourmente. Les enseignants du primaire et du secondaire ont arrêté le travail depuis mardi et c'est toute la fonction publique qui brandit l'arme du débrayage pour lundi. Jean-Roger Bion a joint à Libreville le modérateur des syndicalistes de la dynamique unitaire, Jean-Rémy Yama.
À l'éducation nationale, une grève a été décrétée de 3 jours, 72 heures, pour 3 motifs principaux. Le premier, c'est la rétention des bons de caisse de certains enseignants en violation des textes. Le deuxième point, c'est le non-paiement de la prime d'incitation à la performance. Le troisième point, c'est le paiement de la prime incitative à la fonction d'enseignant, donc la PIF. Aux dernières nouvelles, les deux derniers éléments auraient été satisfaits, mais il reste l'épineux problème de la rétention, de la séquestration des bons de caisse de certains enseignants. Ils sont 200 exactement qui ont été ciblés. À cela également, on vient de constater qu'à la fin de ce mois, c'est-à-dire, vous savez, les salaires sont payés le 25 de chaque mois au Gabon. Donc, nous sommes le 25. Les mêmes enseignants ont vu leur salaire suspendu.
Le mouvement est plutôt contagieux puisque vous, les enseignants du supérieur, vous vous apprêtez à entrer en grève lundi.
Il ne s'agit pas de l'enseignement supérieur seulement. Même si, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons la même difficulté. Mais la grève de 72 heures qui a été décidée et qui prendra effet à partir du lundi 29 juin, elle concerne toute l'administration publique par rapport au nouveau système de rémunération dont on ne connaît toujours pas jusqu'à ce jour les tenants et les aboutissants. Donc la grève de 72 heures concernera toute l'administration publique, pas seulement l'enseignement supérieur.
Alors la paix sociale est donc menacée au Gabon. Est-ce que cela est le fait de la surdité des autorités?
Vous savez, nous avons suspendu notre mouvement de grève pendant un mois, du 11 mai au 13 juin. Le gouvernement n'a pas jugé utile d'ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux. Nous avons fait des demandes d'audience. Le gouvernement est sourd à nos revendications. Le gouvernement ne veut rien entendre et c'est le résultat, évidemment, de cette absurdité. Puisque entre partenaires sociaux, on doit discuter. On ne peut pas mettre en place un nouveau système de rémunération sans discussion préalable avec les partenaires sociaux. Le gouvernement veut faire un passage en force et c'est ce qui explique le climat social très tendu en ce moment.
Vous, en tant que syndicaliste, quelles sont vos propositions pour décanter la situation?
Le début de solution, c'est d'abord que les gens se parlent. Nous sommes prêts à discuter avec le gouvernement. Nous invitons le gouvernement à reprendre les tables à négociation. C'est par la négociation qu'on règle les problèmes. Le gouvernement ne veut pas discuter avec la dynamique unitaire. La dynamique unitaire représente des milliers de fonctionnaires qui sont derrière elle. Ça veut dire que le gouvernement méprise tous ces fonctionnaires-là.
Jean-Rémy Yama, modérateur de la dynamique unitaire et président du syndicat national des enseignants et chercheurs au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
À l'approche de la conférence internationale sur le réchauffement climatique, les appels sur le rôle fondamental de l'eau se multiplient. Sur le continent africain, la sécheresse et l'insécurité alimentaire sont indissociables. C'est pourquoi Ariane Kirtley, jeune franco-américaine, a décidé de dédier toute son énergie à apporter de l'eau aux populations qui en manquent le plus au Niger, à travers son ONG Aman Iman, qui signifie « l'eau, c'est la vie » en langue tamachèque. Dans une interview avec Claire Morin-Gibourg, ici à La Voix de l'Amérique, elle rappelle l'importance de l'eau dans ces régions désertiques.
On a apporté de l'eau à peu près à 100 000 personnes, mais il y a à peu près 500 000 personnes dans cette zone. Donc on veut vraiment continuer à creuser des forages, amener tous les projets qui viennent autour des forages et continuer à amener un dialogue de paix dans cette zone jusqu'à ce que, je sais beaucoup dire, mais est-ce que toute la zone ait vraiment un accès à l'eau. Et on veut travailler dans le temps, parce que c'est pas juste en amenant un forage que le forage va durer dans le temps si on continue pas à faire les activités. Donc peut-être continuer pendant 20 ans, je ne sais pas. Mais on espère aussi travailler avec d'autres populations d'Afrique qui sont aussi très vulnérables.
On parle beaucoup de l'influence du climat aujourd'hui, évidemment du changement climatique, du réchauffement de la planète. Est-ce que vous avez constaté une aggravation de la situation pour ces populations au cœur d'une zone déjà très aride?
Tout à fait. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que c'est le changement climatique global. Mais ce qu'on va dire, c'est que si il y a 15 ans, ces populations vivaient de mares qui se formaient à partir de pluies qui pleuvaient 5 mois de l'année. En 2005, il pleuvait à peu près 3 mois de l'année. Et là, il ne pleut même pas un mois de l'année. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que ces personnes n'ont plus d'eau. C'était la meilleure zone de pâturage dans toute l'Afrique de l'Ouest, cette zone. Une famille pouvait avoir 300 têtes de bétail et maintenant, ils n'ont plus rien. Et non seulement ils n'ont plus rien, mais eux-mêmes ils n'ont plus rien. Il n'y a pas d'eau non seulement à boire, il n'y a pas d'eau pour faire de l'agriculture, donc pour remplacer le bétail. Donc effectivement, je pense que ça doit être une des populations au monde qui doit souffrir le plus de changement climatique.
Ariane Kirtley, directrice d'Aman Iman au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouchi.
Les Béninois retournent aux urnes dimanche pour élire leurs représentants dans les conseils communaux, municipaux et locaux. Plusieurs partis et alliances se promettent la grosse prime, Cotonou. Mais l'enjeu de ces joutes ne se limite pas à la capitale. Voici un reportage de notre correspondant, Peggy Ludovic Dagba.
La bataille pour les municipales, communales et locales béninoises égrène ces dernières heures. Et les différents partis politiques et alliances de partis politiques en compétition dans chacune des 77 communes que compte le Bénin usent d'arguments pour convaincre les électeurs à leur accorder dimanche prochain leur suffrage. Le truculent candidat Zanaï conduit la liste Union fait la nation à Cotonou.
Le programme 3CI a montré ses limites. Il faut proposer autre chose. Et nous avons proposé à Cotonou d'aller à CP, Cotonou propre, pour guérir un mal, il faut aller à sa cause. Les eaux à Cotonou proviennent de trois sources. Il y a la première source qui est liée à la texture géomorphologique du sol et à sa proximité avec l'océan. Et cette source, la cause, c'est la nappe phréatique qui affleure le sol. Il y a une manière pour régler ça. La deuxième source d'eau, c'est l'eau qui vient d'en haut. C'est l'eau de pluie. Et nous savons tous que si la nappe phréatique est à fleur de peau et que l'eau de pluie venait à tomber là-dessus, il risque d'avoir stagnation. Nous savons parfaitement comment il faut régler cette question. Pour la question de la nappe phréatique à fleur de sol, la solution est le relèvement du niveau du sol. C'est une solution lourde. Mais pour l'eau qui tombe d'en haut, la solution, c'est le drainage.
Adimi Tidjani, lui, est candidat FCBE dans le premier arrondissement de Cotonou. Pour lui, les jeunes doivent intégrer les instances de prise de décision.
Je me suis dit, le jeune doit tout faire pour être dans les instances décisionnelles de notre pays. Parce que on remarque que plus de la moitié de la population est essentiellement constituée d'une classe juvénile. Et vous connaissez les problèmes qui minent la jeunesse aujourd'hui. Et il faudrait que la jeunesse soit à la place où il doit décider de son sort.
Et rien ne lui fait peur. Adimi Tidjani.
Moi, je n'ai pas attendu les élections pour commencer par quand même mener un certain nombre d'actions. J'étais sur le terrain il y a très longtemps. J'avais organisé des jeunes pour la campagne de salubrité. J'avais organisé des jeunes pour quand même trouver un certain nombre d'équipements sportifs pour leur permettre quand même de s'épanouir pendant les congés et tout ça là. J'organisais des cours de vacances pour les élèves étudiants qui ont fini peut-être, qui passent en classe supérieure pour la prochaine rentrée, tout ça là. Et pour les élèves en classe de terminale, j'organise les cours de recyclage, de renforcement de capacité pour leur permettre d'affronter les examens. Ouais. Donc moi, j'étais sur le terrain il y a tellement de temps. Ce qui fait que je n'ai pas de difficultés.
Ainsi, la bataille se promet d'être rude dimanche prochain à Cotonou et dans les autres communes du Bénin. Peggy, Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
La société civile sénégalaise se mobilise contre les pénuries d'eau et les fréquents délestages. Plusieurs groupes ont tenu une conférence de presse cette semaine au siège de l'association Yanamar à Dakar en vue d'interpeller les autorités et de planifier des actions. Timothée Donangmaï a joint dans la capitale sénégalaise Simon Coca de l'association Yanamar.
Vu qu'on est en période de Ramadan actuellement, on a décidé de donner rendez-vous aux citoyens sénégalais, aux jeunes sénégalais, au peuple en général, le lendemain de la Corité pour pouvoir faire une grande manifestation, une marche, un sitting, pour justement dénoncer ces coupures d'eau et d'électricité.
Alors selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces problèmes ?
Pour l'électricité, on nous dit que c'est des pannes liées aux câbles qui n'ont pas été nettoyés, que c'est la poussière, etc. C'est vraiment des excuses, voilà, des fois, que les Sénégalais ne peuvent pas comprendre. C'est vraiment des détails. On nous dit des détails de nettoyage par-ci, par-là, des petites pannes par là-bas. Bon, à un certain moment, il y a eu des pannes. Ça, on l'a constaté. Il fallait attendre, surtout pour l'eau, qu'on change. Donc ça, il n'y avait pas lieu de faire une manifestation. Mais aujourd'hui, personne, ni le directeur de la Sénélec, ni qui que ce soit, n'est en principe de dire aux Sénégalais, voilà le problème. D'ailleurs, là, le directeur de la Sénélec a été limogé avant-hier. Donc, je crois que c'est à cause de ces coupures. Et le président a trouvé nécessaire de le limoger. Il a changé le ministère de l'Énergie. Il a amené dans un autre poste pour mettre son directeur de cabinet. La question, ce n'est pas de changer les hommes. Depuis des années, on change pas mal de directeurs. Et le problème, il persiste. Dès qu'on est à l'été, les coupures reprennent. Les Sénégalais ne méritent pas vraiment qu'on leur rappelle à chaque fois, à cette période de l'année, des coupures. Donc, à un certain moment, des matériels qui se gâtent, on a dit stop, quoi. Il est vraiment temps. Et pendant ce temps-là, les politiques ne font que partir en campagne pour une élection qui va débuter que dans 2 ans.
Comment cette pénurie d'eau et ces délestages affectent-ils la vie quotidienne au Sénégal ?
Ben, vous le savez, dès que vous allez quelque part, ce que vous remarquez en premier chez les gens, c'est des bidons de 10 litres d'eau qui se vendent à la boutique. Donc, en quoi ça affecte ? C'est-à-dire le matin, on se lève pour aller travailler ou pour aller à l'école. On n'a pas la possibilité de prendre une douche. C'est comme ça que ça affecte. L'électricité, c'est-à-dire on va au marché, on amène des denrées, on les met au frigo et elles pourrissent. Les vendeurs de poulets de chair qui stockent leurs marchandises dans des congélateurs, qui restent toute une nuit sans électricité, lendemain, ont d'énormes pertes. Donc voilà, ça affecte l'économie, ça affecte les Sénégalais dans leur vie quotidienne.
Et c'était Simon Coca du mouvement sénégalais Yanamar. Et ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, secondée par Jim Harmon. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon week-end à toutes et à tous.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.